À votre santé, 138e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les amis de RVM 93.7. Nous voici à nouveau réunis tous les trois, notre équipe. J'ai à ma droite...
Mais les gens à la radio ne l'ont pas vu, mais je suis toujours à la droite d'Hélène. Daniel Cléo, bonjour.
Et en face, Christian Max.
Et moi-même, Hélène Mazur. Voilà, vous nous connaissez. Et nous allons aujourd'hui entamer une petite conversation sur les avantages et désavantages du privé ou du lucratif dans la santé et les avantages du service public ou du non lucratif dans la santé. Et donc, pour démarrer, vous avez tous entendu parler du scandale d'Orpea. Nous avions déjà évoqué cela. Et enfin, le rapport que le gouvernement n'avait pas voulu publier, eh bien, suite à des plaintes de famille, eh bien, voilà, une bonne partie, pas encore 100%, du rapport dévoile quoi ? Eh bien... Mes amis, vous l'avez vu.
Des subventions publiques ont été distribuées sans demander des comptes après au groupe Orpea, qui est un groupe mondial, le leader mondial des maisons de santé. Des maisons de retraite.
Médicalisées
ou à peine médicalisées.
Très exactement, je crois qu'il y avait même un chiffre sur ça, c'est qu'il y a des subventions publiques importantes.
Oui.
Et que sur ces subventions, il y a même eu un bénéfice de fait.
Entre 2017 et 2020, le groupe a ainsi dégagé 20 millions d'euros d'excédent sur les dotations versées par les pouvoirs publics.
Voilà, et je crois qu'il y avait encore quelque chose.
Et aux actionnaires, oui.
Voilà, donc c'est doublement scandaleux,
voilà.
En soi. Qu'on puisse maltraiter des personnes âgées qui viennent là parce qu'elles sont vulnérables. Et ensuite, parce que c'est une véritable exploitation et avec deniers publics. Quel gâchis !
Et en plus, ce qui est vraiment triste, c'est que ce soit un livre qui a absolument bougé le cocotier. C'est pas normal, ça. Ça aurait dû être acquis depuis des années.
Des familles de résidents alertaient.
Voilà.
Les pouvoirs publics sur la situation, mais ils n'étaient pas écoutés.
Voilà, il a fallu qu'un livre soit paru pour...
Alors, de la même façon, donc ça, c'est Orpea, mais il n'est pas le seul de son état à faire ceci. Corian, voilà, c'est un nouveau scandale. C'est une avocate de famille qui est montée au créneau. Et c'est le même principe qui est appliqué chez Corian.
Et les mêmes résultats.
Voilà. Oui, la maltraitance, c'est-à-dire la maltraitance de personnes vulnérables.
Orpea avait irrégulièrement imputé sur le forfait soins payé par les deniers publics plus de 50 millions d'euros de dépenses. Voilà.
Comment on utilise les fonds publics.
On transférait, voilà.
Donc là, il y a vraiment un problème de contrôle.
J'ai reçu ce matin, dans ma messagerie, un mail publicitaire me vantant les investissements en EHPAD avec un taux de rentabilité jusqu'à 5,8%, donc bien au-dessus de l'inflation, un placement qui allie rendement et sécurité, donc jusqu'à 33 000 euros d'abattement fiscal, un marché encadré par l'État, un bail commercial très avantagé, une rentabilité locative très forte.
Oh là là.
Alors, comment faire pour obtenir une rentabilité locative très forte ? C'est pas compliqué. On fait payer des loyers très chers et on n'assure pas les prestations qui vont avec.
Eh bien, je reçois ce genre de pub également sur Internet, Monsieur Christian. C'est très vrai. Très bien, très bien. Voilà.
Eh bien, tant qu'on laissera le privé s'occuper de la santé de nos aînés, on aura toujours... Des stratégies d'exploitation comme ça. Donc là, vraiment, je ne sais plus si c'est notre fédération, mais moi, j'ai entendu dire que ça devrait être interdit que des EHPAD soient à but lucratif.
Oui. Moi, j'ai mon frère qui est décédé il y a plus de 4 ans, 5 ans. Il était en EHPAD, il payait 3 800 € par mois, et j'étais son curateur, et je recevais la facture. Une fois, il y a eu 1,32 € de coton-tige. Donc c'est tout. C'est tout, sans commentaire.
Et c'est se moquer du monde.
C'est effrayant.
Alors ça, c'était quand même, parce que ce sont des scandales qui révèlent un dysfonctionnement de la prise en charge de nos aînés. Il y a d'autres dysfonctionnements, vous les connaissez, chers auditrices, auditeurs de RVM. C'est la question de la désertification médicale. Et nous avons été interpellés par la pétition des pharmaciens de Clermont, Clermont-de-l'Oise, dans notre département. Et donc, dans cette pétition, donc, ils s'élevaient contre le fait que, effectivement, le nombre de médecins était insuffisant. Ce qui m'a, cet article que j'ai lu, qui m'a interpellée, c'est que, en fait, ils sont, en lieu clos, quoi. On n'arrive pas à trouver de médecin. On s'adresse au maire. Le maire dit qu'il a fait ce qu'il pouvait, y compris en termes de maison de santé, pour accueillir des nouveaux médecins, et même un cabinet pour recruter, un cabinet de recrutement, et qu'il n'y en a toujours pas qui soit venu. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans le système dominant de la médecine libérale et du système des maisons de santé qu'il faut absolument construire pour faire venir, et que ça ne marche pas.
Chacun dans son coin.
C'est la politique du département de l'Oise, entre autres. Et non seulement ils continuent à bâtir, mais ils refusent d'aider les centres de santé.
Ça, c'est grave.
Ils ne veulent aider que la médecine libérale. Résultat, zéro.
Voilà. Donc là, on est vraiment... je pense qu'il va falloir faire monter une désapprobation. Nous sommes contribuables, hein, le département de l'Oise, nous lui payons des impôts. Comment se fait-il qu'il y ait une discrimination vis-à-vis du secteur non lucratif de la santé? Alors, je continue. Dans ces histoires-là, c'est que on parlait du département de l'Oise. Que savez-vous de la communauté de communes ?
Bien, ce que je sais, c'est que j'ai encore reçu un tweet aujourd'hui me vantant les mérites de la carte interactive de la CCPV, dans laquelle sont référencés, paraît-il, tous les professionnels de santé de notre territoire. Ben, quand j'ai ouvert la carte interactive en question, j'ai constaté qu'il y avait toujours les mêmes erreurs que nous dénonçons d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Donc on se demande comment ils ont fait ça et comment ils veulent l'actualiser, parce qu'il faudrait peut-être qu'ils se réveillent un peu, quoi.
Et eux, ils ont les moyens que nous n'avons
pas. Et par-dessus le marché, le fait de trouver un professionnel de santé, si tant est qu'il existe encore, qu'il exerce encore, ça ne veut pas dire qu'il peut nous recevoir.
Mais... Effectivement, monsieur. Moi je suis sidérée. Ils mettent en valeur le fait de communiquer sur l'existant, avec les erreurs que tu dis, mais que font-ils pour résoudre le problème de la désertification? Comme Christian vient de le dire, c'est pas parce qu'il y a un médecin qu'il va vous prendre en consultation. Ou comme médecin référent. Donc là, il y a un vrai problème. Alors que nous avons appris qu'il y a une autre communauté de communes, celle du Plateau Picard, qui, elle, a pris la compétence santé.
Tiens donc. Oui, c'est pas la seule en France, mais elle est proche de nous.
Voilà, donc, elle est prête.
Quand on veut, on peut.
Voilà. Alors, on va s'arrêter là sur... ce constat de nos collectivités qui, à notre avis, ne font pas leur travail, leur mission au niveau de la santé, pour parler d'autre chose qui, là, a réussi, c'est notre centre de santé à Crépy-en-Valois. En effet, j'ai été curieuse parce que, comme je suis allée accompagner ma maman, j'ai vu que non seulement la salle du médecin qui recevait était pleine, mais le hall aussi, je me suis dit, oulala, il y a de la demande. Et j'ai demandé, par curiosité, combien il y avait de consultations, de patients, etc. Alors, Vous avez eu des chiffres.
Oui, bah depuis septembre 2021.
Oui.
Donc, depuis l'ouverture, en septembre, il y a eu 13 359 consultations. En octobre, 2212.
Alors, attends, tu vas un peu trop vite, Christian. Ah. En septembre, combien y avait-il de médecins ?
Deux. En octobre, trois.
Donc, en octobre, c'est passé à combien, les consultations ?
2212.
Oui.
En novembre, 2633.
Là... Il y avait des médecins assistantes qui sont venus.
Et c'est surtout sur les chiffres de décembre qu'on voit ça apparaître. C'est 3090 en décembre.
3090, sachant que c'est comptabilisé jusqu'au 22 décembre et qu'il y a eu un afflux extrêmement important de patients venus de Villers-Cotterêts et de Compiègne. Et alors, ça a continué, Daniel ?
Sur les 7 mois, ça nous a fait un total de 17 110
patients. Ah, mais alors, t'as mangé quelque chose, là.
J'ai fait les totaux, moi, c'est tout. Hein. J'ai vraiment simplifié les extrêmes
parce
avec les moyens, moi.
Les mois d'hiver, il y a eu du monde.
En janvier, il y a eu 2381 patients, enfin...
Consultations.
En février, 2416. Et en mars, ça redémarre encore un peu, 3119. Voilà, donc ce qui nous a fait, donc, je répète, pour les 7 mois, un total de 17 110 consultations. Voilà.
Donc c'est énorme.
Oui.
Et en nombre de patients, c'est évalué à peu près...
2500 patients.
Donc, voilà, on peut dire que le centre de santé fait au-delà de son travail, puisque il y a d'autres secteurs d'habitation, de patients qui sont concernés. Et ils aimeraient bien être aidés, ce centre de santé. Rappelons qu'ils n'ont eu aucune subvention, sauf l'année dernière, pour le démarrage d'emplois, le fait de la création d'emplois par le Conseil régional, mais pour leur fonctionnement et leurs travaux surtout. Leurs travaux, rien du tout. Et là, il y a un vrai problème.
Pour l'accès à des handicapés, oui.
Voilà, l'accessibilité. Ils ont tout ce qu'il faut en projet pour installer un ascenseur, et même deux, si je me souviens bien. Mais ils n'ont pas les finances. Donc là, il y a vraiment une collectivité qui n'est pas à la hauteur.
Mais c'est le département, puisque le handicap, c'est de sa responsabilité.
Exactement. Oui. Exactement. Donc nous, on tient à le dire. En tant qu'habitant de la communauté de communes, en tant que contribuable de la communauté de communes et du département de l'Oise, que ces collectivités, eh bien, elles, finalement, en pratiquant la discrimination vis-à-vis du centre de santé, pratiquent en même temps une forme de discrimination d'une partie de la patientèle qui ne peut pas accéder. Donc là, moi, j'espère que ça va bouger. En tous les cas, j'ai eu quand même comme nouvelle sur les futurs médecins et stagiaires, vous savez que les centres de santé, les médecins doivent être, quoi donc, Daniel ?
Tuteur.
Oui, maître de stage.
Maître de stage,
et
voilà.
Tuteur, et donc, ils ont en permanence des stagiaires. Voilà. D'ailleurs, vous avez un petit avis qui est affiché dans la salle d'attente qui indique les noms de ces médecins stagiaires. Et, voilà. Et c'est grâce à, je dirais, cette filière d'accueil des stagiaires qu'on peut avoir la perspective de nouveaux médecins dès qu'ils auront achevé leur formation. Donc, ce sont des internes, ils sont soit en première, deuxième ou troisième année, hein, je crois, si je ne me trompe pas trop, d'internat. Et donc, quand ils sont arrivés au bout de la troisième, après, ils voient où ils vont s'installer. Et il y a peut-être des perspectives lorsque ces stagiaires sont issus de notre département. Voilà. Donc, voilà, on tenait quand même à terminer sur une note optimiste concernant ce secteur de la santé, de l'offre médicale. Alors, peut-être que tu as encore quelques chiffres à nous donner, Christian.
Oui, les nouvelles du front. Donc, d'habitude, on commence par ça. Là, on va terminer. Donc, le taux d'incidence national relevé sur Covid Tracker ce matin était de 1435, en hausse. Le taux de reproduction de 1,27, mais lui, il est en baisse. La tension hospitalière reste à 30%, donc elle est stable. Il y a une légère hausse des soins critiques. On est à 1552, on était à 1547 la semaine dernière. Et le nombre de décès quotidiens est aussi en légère hausse, puisqu'il est à 107 et il était à 104 la semaine dernière. Mmh. Alors dans l'Oise, on est toujours sous la moyenne nationale, puisqu'on est à 1253 de taux d'incidence. Notre taux d'hospitalisation est de 14%. On n'avait jamais connu ça. On a 271 personnes hospitalisées. Donc c'est un peu moins que la semaine dernière. On a 5 réanimations, c'est la même chose. Par contre, la semaine dernière, on n'avait pas de décès quotidien. Cette semaine, on en a 2.
D'accord. Donc c'est pas... Il n'y a rien de très sensible dans un sens ou dans un autre. Oui,
oui. Pour l'instant, on serait plutôt à un palier.
Un palier, un plateau, comme il disait, oui, voilà, à un moment donné. Voilà où nous en sommes.
Et effectivement, je lisais dernièrement un article de l'épidémiologiste, enfin de la médecin Karine Lacombe, qui disait que la même chose, qu'on arrive à un palier, que ça va probablement redescendre dans quelques semaines.
D'accord. Bien, alors, voilà.
Ça a déjà commencé dans certains départements.
Mmh. Ah bon ? À décélérer.
À décélérer,
d'accord.
Oui.
D'accord. Bon, bah, écoutez, hein, tant mieux, parce que c'est le printemps, on aimerait bien être tranquille, j'ose dire.
Si on veut être tranquille, on va à Mayotte, le taux d'incidence est de 20.
Bon, alors, tous à Mayotte.
Tu nous payes le voyage.
Ce sera Radio Valois à Mayotte, voilà. Donc, on nous parle aussi d'une quatrième dose, voilà. On va attendre un peu les instructions.
Donc, on arrête là pour le vaccin et on vous parlera plus en détail la prochaine fois. Mais on voulait quand même vous dire que suite à notre débat à Ambep, notre association est en train de préparer une action de fonds, une campagne d'enquête et de consultation auprès de la population du canton pour savoir.
Du canton de Baie.
De Baie, de l'ancien, il n'existe plus administrativement, mais caractéristique, on peut dire qu'on le retrouve.
Au niveau de la tête des habitants, il existe encore.
Voilà, 25 communes. Voilà.
Et donc, nous allons leur poser la question s'ils ont un médecin, s'ils pensent que leur médecin va bientôt partir, et donc combien ils sont concernés dans leur famille, etc. Et nous allons leur présenter notre proposition d'un centre de santé avec des antennes. Des antennes, nous vous rappelons que ce sont en fait des lieux décentralisés du centre de santé dans des petites communes qui peuvent accueillir, qui ont un cabinet médical et donc peuvent accueillir les permanences d'un médecin. Donc, si vous nous entendez, habitantes et habitants du canton, de l'ancien canton de Baie, vous allez avoir dans quelques jours, j'espère 8 jours, 10 jours, cette petite carte où vous aurez à répondre. Et nous vous en reparlerons parce que c'est très important d'avoir un état des lieux de façon à pouvoir présenter aux différentes collectivités les besoins et de leur demander, de participer à un projet.
Ça nous a bien éclairé à Crépy. Oui.
Alors, Crépy.
Oui.
D'ores et déjà, nous allons communiquer aux maires des communes concernées le sens de notre démarche.
Voilà.
Voilà. Donc, n'hésitez pas d'en discuter avec vos conseillers, avec vos maires. Nous allons vous envoyer tout ça. Eh bien, merci, les amis. Vous pouvez nous écouter le samedi 10h30, le mardi 13h, le jeudi 16h et, bien entendu, en podcast. Au revoir.
Au revoir, les amis.
Au revoir.